Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Ravelli Lemel. Ravelli Lemel, bonsoir.
Bonsoir.
On poursuit avec vous notre survol, notre lecture de la paracha, ce texte que nous lisons dans nos communautés chaque semaine. Et là, on arrive à une nouvelle paracha qui s'appelle Emor. Et vous voulez intervenir, vous, ce soir, sur un sujet important, c'est comment enseigner à nos enfants à vivre leur identité. C'est un sujet qui nous concerne tous, évidemment, parce qu'il y a le choix de conserver cette identité, cette culture, mais aussi la volonté du vivre ensemble. Donc voilà, c'est le sujet que vous voulez aborder ce soir, en je crois comprendre, voulant insister également sur l'idée qu'il n'y ait pas de rupture pour les enfants.
Oui, en effet, mon cher Bernard, eh bien, nous avons une paracha qui va nous amener à réfléchir sur cet enjeu de la transmission de l'identité, non pas à travers une réflexion, j'ai envie de dire, sur qu'est-ce que l'identité, mais beaucoup plus, comment fait-on pour que la conscience de son identité, de sa particularité, soit quelque chose que l'on puisse intégrer de manière positive. Alors, comment est-ce qu'on découvre cela à travers ce texte? Eh bien, manière très curieuse, le début de la paracha commence avec le verset suivant. Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Emor el hakohanim bene Aharon ve'amarta alem le nefesh lo itama be'amav » Ce qui veut dire « Dis aux kohanim, aux prêtres, les fils de Aaron, ve'amarta alem, et tu leur diras le nefesh lo itama be'amav qu'ils ne doivent pas en effet se rendre impurs au contact avec la mort et d'autres lois qui vont les concerner. » Alors, évidemment, cette phrase est très curieuse parce qu'elle est un peu pesante au niveau de sa construction, puisque le verset dit « Dis aux Kohanim, les fils de Aaron, et tu leur diras ». La logique aurait été d'exprimer les choses de manière différente. « Dis aux Kohanim, les fils de Aaron, voici les lois qui les concernent, et on commence à les énumérer ». Donc, Rashi sur place, bien sûr, au nom de nos maîtres, s'interroge sur cette construction de phrase et nous dit que la Torah nous apprend, entre autres, évidemment ici, l'idée suivante. Emor ve'amarta, dit et tu diras, redondance des termes, qui nous apprend le hazir gdolim alaktanim, pour prévenir les adultes vis-à-vis des enfants. Alors plusieurs lectures, vigilance du monde adulte par rapport aux enfants, mais aussi nécessité pour l'adulte de transmettre à l'enfant ce savoir par rapport aux lois qui le concernent. Traduction, l'enfant Cohen un père, un parent, j'ai envie de dire, qui se doit de lui transmettre les lois qui le concernent de manière spécifique. Nous sommes Kohanim et nous avons certaines règles qui nous concernent au niveau des lois matrimoniales, au niveau de l'univers de la pureté et de l'impureté, etc. Seulement, c'est curieux. Pourquoi ? Parce que, en tant que parents juifs, nous avons l'obligation de transmettre. L'obligation de dire à nos enfants. Et donc, à partir de là, on aurait pu s'imaginer, bien, le parent juif transmet à l'enfant les lois du Shabbat, de la Kashrout, de la Tzedaka, toutes ces choses. Et puis, le parent juif, mais qui en plus cette particularité d'être Cohen, ou d'être Lévi d'ailleurs, va dire à son enfant, et toi, en tant que Cohen, sache que ceci, ceci, cela. Or, la Torah semble nous dire attention. Faites bien attention, quand vous êtes Cohen, n'oubliez surtout pas de transmettre à vos enfants les lois particulières qui les concernent. Pourquoi il y a cette forme d'insistance? Alors si vous le voulez bien, on va essayer de s'imaginer un petit Cohen qui ne sait pas ce que ça veut dire. Mais avant d'aller voir le petit Cohen, on va d'abord aller voir, un petit juif. Un petit enfant qui est né dans une famille juive, que l'on qualifierait aujourd'hui de, non pas d'assimiler, je n'aime pas le terme, mais de personnes qui ne connaissent pas véritablement leur tradition, c'est des choses qui arrivent. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, cet enfant grandit dans une famille aimante, sympathique, agréable, et un beau jour, avec son nom de famille, il entend « celle juif ». Et là, bien sûr, ça le surprend. C'est-à-dire, il vient de découvrir qu'être juif, ça génère peut-être parfois des tensions. Ou alors, on vient lui dire, tu sais, être juif, c'est interdit de ceci, interdit de ceci, interdit de cela. Alors que lui, en tout bien tout honneur, était en train de manger des huîtres, un homard, enfin que vous voulez, parce qu'il ne sait pas. Et là, on lui fait découvrir sa dimension juive en lui proposant des interdits, en vivant une expérience difficile d'antisémitisme. Vous êtes bien d'accord que lorsque vous découvrez votre judaïté à travers une expérience difficile, soit une somme d'interdits, soit une posture, une parole antisémite, eh bien cette identité-là devient un petit peu pesante. C'est pas simple de découvrir sa particularité, son identité à travers une expérience négative. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut imaginer maintenant cela au niveau du Cohen. Regardez, le petit Cohen, allez, il a grandi dans une famille juive et puis un beau jour, allez, l'arrière-grand-père de son meilleur copain vient de décéder, il a envie de l'accompagner au cimetière, c'est son meilleur copain, là on lui dit « Non, tu peux pas, t'es Cohen, tu dois rester dehors ». C'est un peu stressant. Il veut se marier avec une jeune femme, fort sympathique, bien sous tout rapport. On lui dit « Non mais elle est divorcée, t'as pas le droit de te marier avec elle ». Ah, c'est difficile, mais je l'aime. C'est lourd, c'est complexe de découvrir sa particularité, son identité à travers quelque chose qui est du domaine de l'interdit, de quelque chose qui est un petit peu pesant. Et la Torah nous dit, eh bien, justement, il va falloir le faire découvrir au début, c'est-à-dire, dès que l'enfant est petit, lui faire découvrir qu'il est Cohen. Et être Cohen, c'est quoi? C'est avoir cette chance et ce privilège de pouvoir bénir le peuple d'Israël. C'est avoir une responsabilité particulière à terme dans le temple. Et c'est aussi des lois particulières qui le concernent sur la pureté, sur l'impureté, sur le mariage. Au fond, c'est la même chose dans la transmission de l'identité juive. Donner à nos enfants d'abord conscience qu'être juif, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que il y a une histoire, il y a un rite, il y a les mitzvot, il y a les commandements, mais d'abord lui faire découvrir la dimension belle des choses. La beauté du Shabbat, la beauté de la prière, et non point mettre en exergue en premier lieu les interdits. Vous savez, c'est très intéressant parce que souvent pour les personnes, eh bien Shabbat c'est « tu n'as pas le droit, 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 c'est interdit ». Et donc évidemment, vous comprenez aisément qu'il n'est pas simple par la suite d'aimer le Shabbat si c'est d'abord cette dimension qui est mise en exergue. Mais si Shabbat se présente d'abord à travers cette réunion familiale, ce kiddush, cette table, cette rupture avec le monde qui est autour de nous pour mieux nous retrouver avec nous-mêmes et avec ceux qui nous sont chers, une ambiance. Alors évidemment, même s'il y a à côté, nous le savons et c'est fondamental, un certain nombre de choses qui vont nous être interdites, mais on les vivra de manière radicalement autre. Parce que le début de la transmission a commencé d'abord avec tout ce qu'il y a de beau et de positif dans la chose. Il en est de même pour le Cohen. Et plus vous dites les choses lorsque l'enfant est jeune, mieux il les intègre et plus faciles seront les choses par la suite. J'ai envie de dire que, au fond, pour que cette identité juive puisse être vécue de manière harmonieuse et épanouie, il faut faire découvrir à nos enfants ce que j'appellerais, en tout cas ce que André Neher appelait le dur bonheur d'être juif. Bonheur. Il y a un réel bonheur. Il y a une difficulté, évidemment, parce que cette difficulté, eh bien, c'est d'être capable de renoncer, créer des cadres, avoir une forme d'exigence particulière, accepter une parole qui nous dépasse radicalement et nous y soumettre, c'est sûr. Mais en même temps, quelle dimension extraordinaire, quel bonheur de pouvoir vivre cette identité dès lors qu'elle nous a été transmise de manière positive, dès lors que nous avons d'abord vu en quoi il y a des choses merveilleuses à l'intérieur de la Torah et des mitzvot, et que les difficultés liées à l'observance des mitzvot sont peut-être là, mais évidemment se diluent à l'intérieur de tout le reste. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette paracha, et c'est un programme qu'on peut mettre en place dès ce Shabbat, et bien se poser la question, attention, quand nous faisons découvrir à nos enfants leur dimension juive, quels sont les points que nous mettons en exergue, quels sont les éléments qui sont les plus fondamentaux et dont ils vont se rappeler, et c'est cela qui va leur permettre par la suite véritablement de bien vivre cette identité à l'intérieur du monde dans lequel on se trouve.
Et je ne savais pas que cette très belle expression le dur bonheur d'être juif venait de André Néer. Je l'apprends grâce à vous. Et en vous écoutant, je me disais, mais de toute façon, c'est vrai que, par exemple, on parlait du Shabbat, ça commence par quelque chose de très positif, ça commence par l'allumage des bougies, qui est un moment très beau, que tous ceux qui ont la chance de vivre, vivent avec beaucoup de douceur et d'apaisement. Rav Eli Lemel, je vous remercie, et je vous souhaite un beau Shabbat, et un Shabbat nourrissant, si j'ai bien entendu ce que vous disiez. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et on part pour Jérusalem, on en retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai Biton. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom ou Mevorach.
Shabbat Shalom, un beau Shabbat, plein de soleil, plein de bonnes choses. Et on continue notre réflexion sur notre paracha. Et vous voulez revenir sur ce qui est dit à la fin de celle-ci, sur l'épisode d'un homme qui maudit Dieu. Alors, maudire Dieu, c'est incompréhensible. Si on n'est pas croyant, il y en a qui nous écoutent et qui se définissent comme ça, bah, ils disent rien. Mais maudire Dieu, il y a quelque chose de particulier et qui, au demeurant, est complètement fou. Enfin, je veux dire, tel que je le perçois moi, vous allez nous expliquer, mais... qu'on croit ou qu'on croit pas donc, c'est très très dangereux et inutile. Donc, qu'est-ce que signifie un homme qui fait ça ? Et que veut dire la Torah en fait ? Quel est l'enseignement ?
Absolument. Alors, la Torah, nous, quand elle introduit ce texte-là, ce morceau de texte, qui est donc à la fin de la paracha, à la fin de la section hebdomadaire, elle dit « Vayetse ben Aïcha Israël, il est sorti ». Il est sorti, cet homme qui était le fils donc, d'une femme d'Israël. Et les commentateurs s'interrogent comme toujours, comme on s'interroge toujours sur chaque mot de la Torah, d'où il est sorti. Alors, il y a trois avis, et ces trois avis sont très intéressants parce qu'ils se rejoignent d'une certaine manière. L'un dit, il est sorti de son monde. Alors, son monde, c'est quoi ? Bah, c'est le monde des Juifs qui étaient dans la traversée du désert. C'est-à-dire les nuées de gloire, c'est-à-dire le puits de Myriam, c'est-à-dire la manne, c'est-à-dire le tabernacle auquel on pouvait venir offrir de sacrifice, c'est la fréquentation de Moshe Rabbeinu quotidienne, c'est la fréquentation des tzadikim, des ketoshim, des grands dirigeants du peuple juif de cette époque, Aaron, etc. C'est son monde, et il sort de son monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il perd contact avec la réalité, il est aliéné, il perd le lien avec le réel dans lequel il vit. Alors pourquoi il perd son lien ? Ben c'est le deuxième point, parce qu'il sort de la paracha précédente. Vous savez qu'il y a une règle dans la Torah, c'est qu'on a l'habitude d'expliquer certains textes par leur proximité avec un texte qui les précède. Là, dans les versets qui précèdent, on parle de ce qu'on appelle le Lechem Apnim. Vous savez que quand on rentrait dans le Beth Amikdash, dans le temple, on rentrait dans le bâtiment dit du Kodesh du Saint. À gauche, il y avait la menorah, qui représentait la Torah, la spiritualité. À droite, il y avait la table avec des pains et dans des moules qui représentaient la bracha, la bénédiction sur la matière. Et ces pains étaient changés d'un Shabbat sur l'autre et restaient chauds. Et lui, il va se moquer. Il va dire quoi ? Dieu a besoin de ces pains et en plus, c'est des pains qui restent chauds. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, là aussi, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire que ces pains restaient chauds ? Ça veut dire la chose suivante. Quand vous sortez un pain d'un four, et bien, il se refroidit. D'ailleurs, on le souhaite ardemment qu'il refroidisse, c'est pour qu'on puisse le manger. Mais là, ici, il y avait un miracle. C'est que le pain, il restait lié à son origine. C'est-à-dire qu'il restait à l'origine. Il a été cuit, il est chaud au départ, il va rester chaud. Il représente finalement le fait que la matière reste liée à son origine. Qu'est-ce que ça signifie ? Quel est l'enseignement ? L'enseignement, c'est que toute matière a une origine qui est l'origine qui est voulue par Dieu. C'est la volonté d'Hachem. Et la matière n'est pas que la matière. La volonté des hommes, la vôtre, la mienne, etc., n'est pas que la volonté des hommes. Dans notre vie, nous vivons, nous fréquentons, que nous le veuillons ou non, que nous le sachions ou non, la volonté d'Hachem. Et donc, lui, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Hachem initie des choses et il continue de les gérer derrière. Non, c'est pas possible. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, il a rejeté cet enseignement. Et alors, troisième point, donc là, effectivement, ça prolonge cette idée qu'il sort de son monde. Et puis, alors, la troisième chose dont il va sortir également, c'est que sa mère était de la tribu de Dan, mais son père était un Égyptien. C'était l'Égyptien qui avait donc violé la sœur de Datan, et cet enfant était né de cette union. Et Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte que Moshe a tué cet Égyptien. Et donc, lui, en quelque sorte, il a voulu se lier à la tribu de Dan. Alors, la tribu de Dan lui a dit non, tu ne peux pas venir planter ta tente dans le territoire de la tribu de Dan, parce que la Torah a fixé qu'on choisit le lieu d'habitation dans le camp des Bnei Israël en fonction de l'identité du père. Si le père est de la tribu de Dan, alors tu peux, mais s'il n'est pas, tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retrouve chez Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu lui dit non. Tu ne peux pas t'installer sur le territoire de la tribu de Dan. Et là, c'est très intéressant, parce que finalement, cet homme-là n'a pas de makom. Il n'a pas de lieu. Il n'a pas de lieu où se poser. Alors, quel est le recours de quelqu'un qui n'a pas de lieu où se poser ? Il peut demander à Moshe Rabbeinu. Elle dit, alors dans ce cas-là, il peut faire comme les filles de Tselophrade. La Torah va nous raconter l'histoire des filles de Tselophrade, qui étaient quatre filles qui n'avaient pas de frères. Elles vont voir Moshe Rabbeinu et lui disent, il semble que la répartition des terres sur la terre d'Israël, quand on va y entrer, se fait en fonction des garçons. Mais là, il n'y a pas de garçon chez nous. Alors, comment on fait ? Et là, va se révéler une halakha, une loi, qui est que lorsqu'il n'y a pas de garçon, eh ben, les filles, effectivement, vont bénéficier donc de la répartition des terres qui était destinée au père. Donc, en fait, ces filles, elles n'avaient pas non plus d'endroit où se poser, en quelque sorte. Mais elles sont parties voir Moshe Rabbeinu pour demander qu'est-ce qu'on fait ? Et Moshe Rabbeinu a obtenu la réponse d'Hachem. Cet homme-là, c'est ce qu'il devait faire. Moshe Rabbeinu lui dit non, tu ne peux pas t'installer sur le territoire de la tribu de Dan. Mais il y a une chose que tu peux faire, c'est me demander où tu dois aller. Mais ça, il ne l'a pas posé, cette question. Donc en fait, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il s'est complètement détaché de son monde et il s'est même détaché des possibilités qui lui sont offertes dans ce monde. Et donc à la fin, il n'a plus de ce qu'on appelle un makom, il n'a plus de lieu. Un makom en hébreu, ça vient du mot mekayem, c'est quelque chose qui porte l'individu. Cet individu, il n'a plus rien qui le porte parce qu'il choisit délibérément, petit à petit, de se détacher de ce qui le porte. Il vit dans le désert, il voit des miracles. Il vit au milieu des Bnei Israël, il voit des miracles. Il vit avec des tzadikim, il voit la grandeur, il voit la Torah, il voit la sagesse, il le voit tout ça. Eh bien, il s'agit de se détacher de tout ça. Et in fine, qu'est-ce qu'il fait ? Effectivement, il en arrive à maudire le Créateur lui-même, Chas v'Shalom, parce qu'il va dire même lui, je peux l'attaquer en quelque sorte. Donc il perd complètement le contact avec le réel. Je crois que l'enseignement fondamental de cet homme-là, que nous donne cet homme-là, c'est qu'en fait, un individu qui ne veut pas voir le réel dans lequel il vit, qui ne veut pas voir tout ce qui lui est donné, tout ce qui lui est offert, tout ce qui est là pour lui, c'est un individu qui perd le contact avec le réel, qui perd le contact même avec la source spirituelle de ce réel, et qui finalement ne sait plus où il habite, il ne sait plus qui il est, et à la fin, il détruit tout, y compris sa relation avec lui-même et sa relation avec le Créateur. Alors, les maîtres de la Kabbale nous enseignent que cet homme-là s'est réincarné, et s'est réincarné dans Jésus. Oh. Et Jésus, qui est par définition l'homme qui va chercher à déraciner le lieu du judaïsme et à l'origine d'une religion qui va chercher à déraciner le lieu de vérité que représente le judaïsme. Et ça n'est pas fortuit, parce qu'il y a ici, un enseignement là encore qui est certainement très profond, c'est que nos choix sont aussi des choix qui nous conduisent à des tikkunim, à des réparations, à des possibilités de réparation, mais nous conduisent aussi à des impossibilités de réparer. Quand un individu s'éloigne et qu'il détruit tout, il s'aliène, il peut tout casser. Alors voilà, c'est un petit peu l'enseignement de cet homme-là. Préservons notre makom, préservons notre lieu, soyons de fins observateurs, et surtout des observateurs joyeux de notre vie, de notre makom, de là où on est. Essayons de voir tout ce qu'il y a de positif dans ce que nous avons dans notre vie, dans ce que nous faisons, dans le lieu où nous habitons, dans notre lieu mental, psychique, psychologique, spirituel, familial, etc. Soyons à l'écoute, à l'affût de tout ce qu'il y a de positif qui permet de construire une relation saine et féconde avec notre entourage et notre vie. Voilà, amen. C'est un peu l'enseignement.
Vous savez que dans la langue française, la colère correspond aussi à ce que vous dites, parce qu'on dit « je suis hors de moi » ou « il est hors de lui ». Ou même on peut dire « il ne s'appartient plus ».
Exact.
Hein, c'est intéressant parce que d'autant
plus
que...
Pour une fois, le français dit « vrai ». C'est vrai, mais c'est complètement ça, bien sûr. En hébreu, exactement, sur le chaos, par exemple, sur la colère, puisque c'est de ça dont il s'agit ici également, nos sages nous disent que quand un individu est en colère, sa neshama akdosha le fuit. Il reste entre les mains de quelque chose de complètement matériel. Donc là, ici, en quelque sorte, il est déconnecté. Effectivement, ou yatsa mi yatsmo. Et quand il arrête avec sa colère, on dit au chazar le yatsmo. il est revenu à lui-même, à l'essence de lui-même. Effectivement, c'est ce qui se passe, être hors de soi ou être en soi. Effectivement, Chazak Baruch.
Magnifique. Rav Mordechai Biton, je vous souhaite le plus beau Shabbat possible, vous qui êtes à Jérusalem. Bonsoir à vous, Shabbat Shalom.
Autant pour vous et autant pour nos auditrices et nos auditeurs.
Shabbat Shalom.
Voilà, pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, comme le veut l'expression, qui d'ailleurs en même temps n'excuse rien, mais voilà, on n'a pas pu. Nous n'avons pas la dracha de Maria Chadret ce soir. Et donc, c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom et de vous donner rendez-vous à 18h pour un journal complet.
שם לא יבנה בית, שום לבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי. אם השם לא יבנה בית, שום לבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי.